Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Qu'est-ce que nous savons de ce qui se passe? La mort, comme conséquence du péché originel, c'est cette séparation extrêmement douloureuse de l'âme et du corps. Nous avons été créés âme et corps. L'âme informe le corps. L'âme est l'âme du corps. L'âme a pour allié ce corps qui est comme la gangue du corps, comme l'instrument. Le corps est l'instrument de l'âme, son allié. Et nous avons été faits pour vivre en harmonie âme et corps. Le péché originel casse cette harmonie, casse l'harmonie avec Dieu, casse l'harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, casse cette harmonie qui existe entre notre âme et notre corps. Notre corps meurt et va disparaître, et notre âme, elle, va subsister, va continuer à vivre pour toujours et voilà, va se présenter devant Dieu. Alors je fais juste un petit excursus. L'âme, après la mort, va attendre un moment essentiel qui est la résurrection de la chair. L'âme est faite pour vivre avec notre corps. Et donc, elle va attendre de pouvoir retrouver ce corps qu'elle aime et avec qui elle a vécu toutes ces années et pour lequel elle est faite pour toute l'éternité. Et au moment de la résurrection de la chair, donc au dernier jour, ça correspond au moment que j'ai lu dans l'Évangile, où le roi réunit tous les hommes. À ce moment-là, Jésus va terminer son œuvre en rapportant l'harmonie, en créant enfin une harmonie parfaite entre notre âme et notre corps. Et à partir de notre âme, comme l'âme est l'âme du corps, eh bien, à partir de cette âme, Dieu va recréer le corps, et qui est un corps qui sera bien différent de celui que nous avons aujourd'hui, de la même manière que le corps du Christ ressuscité est bien différent du corps du Christ crucifié 3 jours auparavant, qui a plus l'apparence d'un ver, comme dit le prophète Isaïe, que d'un homme. Notre corps sera splendide, magnifique, avec des possibilités que nous observons dans le corps de Jésus, puisque Jésus traverse les murs. Jésus peut être à plusieurs endroits en même temps. Voilà, après sa résurrection, il nous manifeste toutes les possibilités, et encore pas toutes, mais que nous aurons enfin avec notre âme et notre corps. Et donc, aimons notre corps, puisque nous l'aimerons pour toute l'éternité. Saint François d'Assise, pendant un certain temps, a pris son corps pour un âne, et il parlait de son corps comme d'un frère âne, et à la fin de sa vie, François a demandé pardon, non plus à son frère âne, mais à son frère corps, pour tous les excès qu'il lui avait fait subir. Le curé d'Ars aussi reconnaît qu'il était excessif dans sa pénitence au début de sa vie. Le corps n'a pas à subir notre aigreur ou des désirs excessifs. Notre corps a le droit d'être soigné comme notre âme a le droit d'être soignée. Voilà, donc, lorsque nous allons mourir, notre âme va se séparer du corps. On m'a rapporté, je n'ai pas pu vérifier ça, mais que Marthe Robin avait dit « Si nous avions conscience de combien la personne est présente avec son corps après sa mort, jusqu'aux obsèques, nous passerions beaucoup plus de temps à prier à côté du corps. » L'âme est là, et visiblement, il y a quelque chose qui se passe au moment des obsèques. L'âme est comme libérée, enfin, de ce corps qui va partir en terre. Et voilà pourquoi nous sommes invités par la grande tradition chrétienne à veiller nos frères et sœurs défunts. Je vous rappelle, c'est une petite parenthèse très concrète, mais si vous avez un proche qui meurt à l'hôpital, vous avez 24 heures pour pouvoir demander à récupérer le corps de cette personne chez vous pour pouvoir le veiller chez vous. Vous avez, je crois que c'est ça, hein, je ne sais pas, Catherine, tu sais, ou... on m'avait dit ça. Vous avez, pendant 24 heures, vous pouvez demander à ce que le corps soit amené chez vous pour que vous puissiez prendre ce temps. Et l'idéal, eh bien, c'est de ne pas faire traîner ce temps avant les obsèques, parce que c'est un temps qui est long. On prie, mais aussi il faut avoir un certain rythme. La tradition autrefois, c'était un jour ou deux jours. Voilà, c'est bien. Et c'est déjà fatigant de prendre ce temps de prière et de mémoire. C'est bien, donc de faire assez rapidement quand on peut. L'âme, donc, après les obsèques, donc, semble voler de ses propres ailes, en tout cas d'être libre du corps. Mais à un moment, alors ça, on ne sait pas quand, à un moment, l'âme va entrer en contact avec Dieu. Nous allons voir Dieu tel qu'il est. Nous allons le voir et Dieu va nous donner la grâce du jugement. Il y a deux types de jugement pour après la mort. Il y a le jugement particulier et le jugement universel. Le jugement universel est pour la fin des temps. Ce sera le jugement de l'humanité tout entière. Au moment de notre mort, nous vivons le jugement particulier. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était une grâce ? Parce que si vous faites attention à vous-même, eh bien, secrètement, vous nourrissez le désir de pouvoir être pleinement vous-même devant les autres. Moi, j'aimerais avoir cette liberté intérieure de vous partager très simplement mes péchés et que je puisse vivre avec vous, que vous soyez conscient de mes péchés, de mes faiblesses. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas cette force d'âme, cette simplicité, mais je nourris ce désir parce que quand il y a des choses mauvaises que je garde pour moi, eh bien, plus ou moins inconsciemment, je vais me dire « Ah oui, mais s'ils savaient tout ça, alors ils arrêteraient de m'aimer. » Ce qui n'est pas vrai. Mais ça, en plus, le malin va jouer là-dessus. Eh bien, Dieu, au cours de ce jugement particulier, va nous baigner dans sa lumière, va nous donner de voir toute notre vie telle que lui la voit, c'est-à-dire dans la plus absolue objectivité. Moi-même, je ne suis pas capable de juger objectivement ma vie. À certains moments, je vais être laxiste vis-à-vis de moi-même, disant « Oh, Xavier, c'est pas très grave ça, ce que tu as fait. » Et à d'autres moments, je vais être profondément scrupuleux et je vais pouvoir me juger très négativement sur ce que j'ai fait. Et en fait, je ne sais pas quelle est la vérité entre ces deux écueils, entre ces deux excès. Dieu sait tout. Dieu va nous montrer tout ce qui aura été beau dans notre vie et aussi tout ce qui aura été imparfait ou même mauvais. Et Dieu va me montrer aussi les racines de mon mal. Dieu va me montrer aussi ma responsabilité en me révélant que, à certains moments, eh bien, j'ai été blessé par quelqu'un d'autre et que cette blessure a entraîné chez moi une fragilité qui explique en partie mon péché. Je ne suis pas responsable à 100% de mon péché en général. Déjà, il y a Satan, et après, il y a ses blessures, et puis aussi parfois les mauvaises habitudes que j'ai pu prendre moi-même, mais qui font que je ne suis pas entièrement conscient du péché que je commets. C'est pour ça que le péché mortel qui coupe de Dieu, en tout cas qui éloigne fortement de Dieu, à des conditions qui font que on ne sait pas trop, en tout cas le péché mortel n'est pas si courant que ça. Parce que pour qu'il y ait un péché mortel, il faut qu'il y ait l'acte grave, d'accord, mais il faut qu'il y ait une pleine conscience de la gravité de l'acte et il faut qu'il y ait une pleine liberté dans cet acte. C'est pourquoi certaines femmes ou certains hommes qui forcent aussi certaines femmes à avorter, eh bien, ne sont pas forcément dans un état de péché mortel. Si on les a forcées, si leur conscience n'était pas pleine et entière, eh bien, elles n'étaient pas dans un état de péché mortel. Et en tant que prêtre, dans la confession, nous n'avons pas à lever l'excommunication qui serait due à ce péché-là, puisque ces personnes n'ont pas cru si mal faire à l'époque, ou alors ont été forcées. Donc, Dieu va nous montrer l'exacte responsabilité qui était la nôtre. Je vous donne un exemple. Staline, un jour, va voir sa maman et il lui dit « Maman, pourquoi as-tu toujours, ou pourquoi as-tu été si dur avec moi ?» Alors, il avait un père qui le battait, qui battait sa mère s'est séparée de son père. Mais après, sa maman est restée extrêmement dure avec lui. Et c'est un peu, on retrouve un peu le cri de l'enfant quand il est déjà dictateur et qu'il fait beaucoup de mal. Le cri de l'enfant vis-à-vis de sa mère, pourquoi est-ce que tu as été comme ça avec moi? Et là, on peut se dire, oh, il y a un début d'explication, en fait, de tout ce mal qu'il a fait. Eh bien, Dieu nous montrera tout cela. Et c'est pour ça que c'est une vraie grâce. Moi, j'ai le désir de connaître la pure vérité de ma vie. Et j'ai ce désir de pouvoir vivre avec vous, devant Dieu, en ayant été renouvelé dans l'amour que les autres me portent. C'est ça qui est merveilleux. Dieu va me montrer tout mon péché, mais en même temps, va me faire comprendre qu'il m'aime d'un amour absolu. pour nous, ça, on a du mal à faire cohabiter les deux choses en même temps. Et pourtant, c'est ça qui se passe en Dieu. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que nous avons lu dans l'Évangile, Dieu nous jugera sur l'amour. Saint Jean nous dit ça. Nous serons jugés sur l'amour. Donc, l'âme enfin voit toute la vérité de sa vie. Elle reconnaît le bien qu'elle a fait, elle est étonnée par ce bien, elle entend Dieu qui la remercie pour ce bien, et elle voit aussi le mal qui a marqué sa vie. Et devant ce mal, eh bien, et devant un Dieu si bon, l'attitude normale, en fait, est de demander pardon. De demander pleinement pardon à Dieu pour tout ce qu'elle a fait de mal. Et si elle en a besoin, eh bien, l'âme, à ce moment-là, passe par cette grâce de purification. Purgatoire, ça vient de ces mêmes racines que purger. On est purgé du mal et de tout le mal que nous avons fait. Et cette grâce est aussi ancrée en fait au plus profond de nous-mêmes. Nous avons ce désir d'être entièrement purifiés du péché. Parce que je ne peux pas imaginer, moi, vivre pour l'éternité avec toutes ces marques du péché et du mal. Si Dieu m'ouvre l'éternité bienheureuse, alors moi je veux être pleinement bienheureux et pleinement réconcilié avec moi-même, et je veux que l'œuvre de Dieu soit allée jusqu'au bout de moi, en moi-même. Et donc, je vais désirer cette purification. Et je fais une petite parenthèse sur la réincarnation. La réincarnation est très humaine. C'est une théorie en soi qui paraît très, très belle et qui correspond à ce désir que nous portons tous de ne pas entrer dans l'éternité, je ne connais pas les termes exacts, mais de ne pas entrer dans cette vie finale encore marquée par le mal. Et donc, les hommes se sont dit, bien, il y a une solution, c'est qu'on doit pouvoir vivre un peu indéfiniment notre vie, et comme ça, on va être purifié à la fin. Sauf que l'histoire du peuple hébreu, et c'est ce que Jésus confirme, nous montre que c'est une belle théorie, mais qui ne fonctionne pas. Parce que Dieu nous dit, malheureusement, même si tu vivais encore 1000 vies, tu ne serais pas capable par toi-même de te purifier. La racine du mal est tellement profondément ancrée en toi. Et ce désir, parce qu'on est lavé du péché originel, mais ce goût du péché est tellement en toi que même si tu vivais 1000 vies, tu ne t'en sortirais pas. Et donc, la vraie, véritable réponse que Dieu nous apporte par le Christ, c'est « Vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. » Alors, moi, je viens parmi vous, je deviens un homme, je vis toute votre vie, je vais porter tout votre péché, toute votre souffrance, et je vais vous libérer, et ensuite je vais entrer en vous-même par le baptême, par les sacrements, et je vais lutter contre le mal, et je vais vous obtenir cette grâce de la purification. Mais je vous dis ça parce que quand vous rencontrez des gens qui croient à la réincarnation, vous pouvez leur dire, bien, je comprends votre désir, et il y a quelque chose de très beau. Nous aussi, nous avons ce désir d'entrer purifié dans la vie éternelle, mais, vous voyez, pendant toute l'histoire d'Israël, malgré toutes les grâces que Dieu a donné à Israël, eh bien, les fils d'Israël n'ont pas réussi à expurger le mal qui était en eux. Et c'est la même chose pour nous. Nous n'y arriverons pas. Par contre, le Christ nous apporte une bonne nouvelle, c'est que si nous lui remettons notre péché, lui nous en délivrera. C'est le mystère de l'amour de Dieu auquel nous croyons. Voyez, ne soyez pas fermés quand on vous parle de réincarnation, mais plutôt reconnaissez que c'est beau, mais c'est très limité. Ne leur dites pas comme ça, mais dites-leur, Jésus nous apporte la véritable solution. En tout cas, nous avons donc viscéralement, nous portons ce désir de la purification. Alors, le purgatoire, eh bien, c'est une purification de notre être où Dieu va faire grandir l'amour en nous. Où l'amour qui est trop limité en nous, eh bien, va prendre possession petit à petit de tout notre être. C'est une évangélisation de notre être. Dieu va revisiter tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous sommes, pour nous purifier. C'est pour cela, donc, comme je l'ai dit, que c'est pas un moment très agréable, le purgatoire. Et en même temps, c'est un moment de joie aussi très grande parce que nous aurons vu Dieu. Nous aurons découvert que Dieu nous aime pleinement tel que nous sommes. Que Dieu nous offre cette grâce de purification et que, on ne sait pas trop quand, on va pouvoir entrer dans l'éternité bienheureuse qu'on a entrevue en regardant Dieu. Et donc, il y a déjà cette assurance de vivre au paradis pour toujours. Et donc, c'est magnifique. Donc, les âmes du purgatoire voient se cohabiter en elles cette épreuve-là de la purification et cette joie immense de cette certitude de pouvoir bientôt vivre avec Dieu et avec les autres. Pour ça, je vous redonne une petite image qui est très belle de Sœur Emmanuel. Je vous invite, si vous pouvez, à télécharger un enseignement. Vous le trouvez sur exultet.fr. Et c'est un site chrétien de téléchargement d'enseignement. Et si vous marquez Sœur Emmanuel, et après, l'étonnant secret des âmes du purgatoire. C'est un très bel enseignement. Et dans cet enseignement, elle dit, le purgatoire, c'est un peu comme une femme. Alors, elle a pris l'exemple d'une femme parce qu'elle en est une, mais ça peut être un homme. Mais une femme qui, visiblement, a été blessée, profondément blessée par la vie. Elle ne croit plus à l'amour des autres et elle est peut-être déçue d'elle-même aussi, et pour cela elle se retire en quelque sorte, elle se réfugie dans son appartement, et petit à petit en fait elle perd tout amour d'elle-même, elle se délaisse et elle désespère, donc elle reste comme ça dans son appartement sans faire attention à elle, et tout d'un coup on frappe à la porte, elle est étonnée que quelqu'un frappe à la porte, elle va ouvrir et là elle est en face d'un homme extrêmement bon et qui lui déclare l'amour qu'il a pour elle et qui lui demande si elle accepte de vivre pour toujours avec lui. Donc la femme voit bien qu'il est sincère, qu'il est vrai, et donc tout d'un coup se met à exploser de joie devant tant d'amour. L'espérance revient, sauf que elle voit cet homme qui est extrêmement bon et extrêmement beau, voilà, c'est la perfection. Elle le voit et puis elle ne peut pas s'empêcher de se regarder, et elle qui est toute tachée, qui est sale depuis longtemps, ne veut pas aller avec cet homme dans cet état. Donc elle va dire à cet homme, bien, je suis désolé, je viens avec toi. Mais il faut que je me prépare, laisse-moi quelques minutes pour aller me préparer. Et peut-être, elle ne va même pas laisser entrer cet homme chez elle, tellement la honte de l'état de son appartement. Et elle va se préparer, elle va essayer de trouver des habits propres, et elle va se nettoyer, se laver elle-même. Donc elle est toute excitée à l'idée de rejoindre cet homme, mais le problème c'est que les secondes paraissent une éternité. Elle voudrait déjà être avec lui, mais elle voudrait que sa douche se fasse plus vite, que ce soit plus efficace et qu'elle arrive à se maquiller, tout ça, en un rien de temps. Mais non, ça prend un certain temps. Et elle est donc partagée par cette joie immense. Et cette attente très très longue, même si elle est courte en réalité, cette attente de pouvoir être avec lui. Vous voyez, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la plus belle image que j'ai entendue sur le purgatoire. Ça nous fait comprendre ce que vivent nos frères et sœurs. Donc, quand vous voyez une représentation, comme dans le dessin animé Le Grand Miracle, où on voit le purgatoire comme un immense trou et les âmes qui sont profondément tristes et sont toutes grises, on a l'impression que c'est l'enfer, c'est pas juste. Alors je sais que pour des artistes c'est compliqué de représenter à la fois cette joie et cette attente, mais en tout cas c'est pas juste cette représentation. Voilà pour le purgatoire. Et donc ces âmes à ce moment-là sont gagnées par l'amour de plus en plus, et donc elles nous aiment et elles restent connectées à nous. Parfois on a cette représentation que la mort nous sépare. D'accord, elle nous sépare physiquement, mais spirituellement, elle ne nous sépare pas. Elle nous rapproche quelque part, parce que l'âme est délivrée de ce corps qui n'a pas toutes les possibilités qu'elle voudrait avoir, et ce corps qui ne lui a pas permis d'être, par exemple, toujours présent avec les autres. Là, l'âme est libre, est entièrement spirituelle, et l'âme est avec tous ceux qu'elle aime parfaitement. Donc les défunts sont là à chaque instant de notre vie, ultra présents. C'est normal, ils sont en communion avec Dieu, même s'ils vivent ce purgatoire. Ils sont en communion avec Dieu et Dieu est avec nous. Donc les âmes qui sont avec Dieu sont aussi avec nous. Ces âmes nous aiment et ces âmes prient pour nous. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément beaucoup. Les âmes du purgatoire intercèdent pour nous. Nous, on peut les oublier, mais elles ne nous oublient pas. Et je vous donne un petit témoignage pour vous encourager dans la prière pour elles, et aussi d'être un peu plus dans l'action de grâce pour ce que les âmes font pour nous et que nous ne voyons pas. Là, c'est quelque chose qui s'est bien vu, c'est aux orphelins apprentis d'Auteuil, il y a une dizaine d'années, le directeur des orphelins apprentis d'Auteuil découvre que pour finir l'année, il leur manque 10% de leur budget annuel, c'est-à-dire 28 millions d'euros. Pas mal, 28 millions. Et donc, bon, la situation un petit peu tendue. Ils ont l'habitude de faire confiance à la Providence. Le père Brottier faisait confiance à la Providence, mais quand même, 28 millions d'euros, et il fallait le trouver en 10 jours. Alors, il se trouvait qu'entre-temps, avant les 10 jours, ils avaient prévu de longue date d'aller travailler à Montligeon, qui est un lieu de pèlerinage et de prière pour les âmes du purgatoire. Alors, le responsable directeur en parle au recteur de Montligeon, le père Paul Préau, et le père Paul lui dit « Ben, on va prier les âmes du purgatoire, on va leur demander de s'occuper de ça. » Ben, très bien, d'accord. 10 jours plus tard, il n'y avait pas les 28 millions d'euros. Quelques jours après, don de 32 millions d'euros. Alors, une personne fait don de 32 millions d'euros. Donc, ils vont voir cette personne, ils ne la connaissaient absolument pas. Personne assez aisée, hein, vous le devinez. Et lui, il discute avec cet homme. Il comprend qu'il est croyant, mais qu'il n'est pas vraiment pratiquant. Et à un moment, il lui pose la question, pourquoi est-ce que vous nous avez donné, vous avez fait ce don? Il lui dit, ben, un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, quand même, t'as jamais donné de ton argent aux autres. Tu pourrais quand même faire un petit quelque chose. Et j'ai pensé aux orphelins apprentis d'Auteuil, je ne me souviens plus du lien, mais je crois qu'il y avait quelque chose dans sa famille, dans ses ancêtres, qui avait été marqué par les orphelins apprentis d'Auteuil. Il avait pensé à eux et il avait fait un petit don, un petit quelque chose, en signant un chèque de 32 millions d'euros. Alors, les orphelins apprentis d'Auteuil ont largement remercié les âmes du purgatoire. Et les âmes peuvent beaucoup. Et donc, il faut les impliquer dans notre vie et leur demander, leur confier certaines intentions, leur demander de prier pour nous. Elles peuvent beaucoup pour nous, mais elles ne peuvent plus rien pour nous, pour elles. C'est un petit peu normal. Dieu nous dit, profite de ta vie sur terre parce que tu peux tout, en quelque sorte, pour toi. Et la grâce de l'indulgence plénière, par exemple, si vous confessez là dans les jours à venir, que vous redites votre foi, vous allez communier, que vous priez aux intentions de l'Église, du Saint-Père, eh bien, et que vous avez ce désir de vous convertir, eh bien, Dieu vous donne la grâce de l'indulgence plénière, c'est-à-dire qu'il va vous laver de toutes les conséquences du péché, toutes ces tâches-là qui demeurent. Et qui fait que si, après l'obtention de cette grâce, vous mourrez, eh bien, vous allez directement au ciel. C'est pas mal. Donc, nous vivons, nous pouvons obtenir beaucoup pour nous, en nous offrant davantage à l'amour de Dieu, à sa grâce. C'est normal. Et je vous donne aussi un exemple que Sœur Emmanuelle donne. C'est une femme qui voyait, qui recevait la visite, pas Sœur Emmanuelle, mais femme dont elle parle, recevait la visite d'âmes du purgatoire, comme un certain nombre de saints, Don Bosco, etc. Cette femme voyait d'abord les âmes tout en gris, triste, terne, venir lui demander « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Elle priait, offrait des sacrifices. Et au bout d'un certain temps, elle revoyait cette âme, mais cette fois-ci dans la gloire et rayonnante. Et à ce moment-là, elle pouvait parler, discuter un petit peu avec ses âmes. Et un jour, il y a une religieuse qui lui avait demandé de prier pour elle et qui donc lui réapparaît dans la gloire, la remerciant profondément pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Donc elle était au ciel, enfin. Et elle lui dit, tu vois, moi je suis passé par le purgatoire, mais à côté de moi, dans la chambre d'hôpital, ma voisine, elle est allée directement au ciel. Alors, pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Et la religieuse explique que cette femme était une jeune maman avec 4 enfants, avec un cancer, et elle a fait cette prière à Dieu. Seigneur, j'aimerais beaucoup pouvoir vivre, et notamment pour pouvoir m'occuper de mon mari et de mes enfants. Maintenant, si c'est le moment pour moi de te rejoindre, je te fais confiance. Je sais que, de toute façon, mes enfants seront bien entre tes mains. Alors, je m'en remets à toi. Et elle est morte en ayant fait cet acte de confiance. Mais c'est la marque d'un amour quasiment parfait. La confiance, c'est qu'elle savait très bien que Dieu s'occuperait de ses enfants, et véritablement. Et elle devait se douter aussi qu'elle-même continuerait d'être leur maman et continuerait de les aimer et de faire beaucoup pour eux en étant invisible mais réellement présente à côté d'eux. En tout cas, elle a fait entièrement confiance à Dieu. Eh bien, rien ne la séparait plus de Dieu. Donc, elle n'a pas besoin de passer par le purgatoire. C'est beau. Et ça, ça doit nous aider à nous faire comprendre que l'objectif de notre vie, c'est de faire confiance, de croire aux paroles. Et alors je m'adresse aux scrupuleux, ceux qui se condamnent à cause de leurs péchés. Jésus nous a dit clairement que tout péché aurait miséricorde. Que toute personne qui demanderait pardon, regardez le bon larron, c'est un larron, il a tué, c'est un meurtrier, et Jésus lui dit ce soir, tu seras avec moi au paradis. Donc, Jésus nous dit, ne t'inquiète pas de ton péché, demande-moi pardon, et confie-le-moi, moi je le porte, il est déjà en moi. Alors, ne t'inquiète pas. Il faut grandir dans cette confiance. Et si on sent qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on n'arrive pas à se pardonner, eh bien, demandons cette grâce à Dieu pour pouvoir grandir dans la confiance et puis mourir comme cette femme. Allez, Seigneur, vas-y, tu sais bien, je ne suis pas parfait, je n'ai pas été parfait, mais vas-y, prends-moi si tu veux maintenant, et je me réjouis par avance pour tout ce que tu m'accorderas, dont je ne suis pas complètement digne, mais puisque tu m'aimes et que tu veux me donner, alors je reçois. Donc, au cours de notre vie, nous pouvons beaucoup pour nous-mêmes, mais après la mort, eh bien, nous ne pourrons plus rien pour nous-mêmes. Et la purification qui se vit au purgatoire est une purification passive. Dieu opère cette purification. Nous avons la personne qui entre au purgatoire a dit oui à cette grâce de purification, elle la désire, mais c'est l'acte d'ouverture qui est actif. Après, elle se laisse faire par Dieu. Mais, comme je viens de dire, par exemple, pour cette femme qui recevait la visite d'âme du purgatoire, eh bien, Dieu nous montre que nous pouvons donc beaucoup pour ces âmes. Et la grâce de l'indulgence plénière que nous pouvons recevoir ces jours-ci et pendant tout le mois de novembre eh bien, nous pouvons la garder pour nous-mêmes, mais nous pouvons aussi l'offrir pour les âmes du purgatoire. Et comme dit Sœur Emmanuelle, eh bien, vous imaginez au ciel le comité d'accueil qui sera là pour nous accueillir au moment de notre mort, si nous avons fait beaucoup pour les âmes du purgatoire. Elles seront toutes là pour nous accueillir et nous remercier et nous aider au moment de notre mort pour passer cette épreuve. Donc, prions pour elles. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Oui. Alors, oui, ce matin, je me suis dit, mince, t'as pas vérifié, mais on m'avait fait lire l'année dernière un papier là-dessus. En fait, visiblement, l'indulgence plénière est offerte tous les jours, donc aux conditions suivantes. Il faut, vous n'allez pas vous confesser tous les jours, hein, mais confessez-vous régulièrement avec le désir de vous convertir. Vous allez à la messe, c'est lié à la messe, ou alors vous prenez un temps de prière d'au moins 30 minutes. Vous priez aux intentions du pape et vous redites le credo, votre foi en Dieu. Et donc vous offrez cette indulgence plénière pour quelqu'un ou alors pour vous la garder pour vous. Donc, confession régulière. Messe ou temps de prière d'au moins 30 minutes, credo et prier aux intentions du Saint-Père de l'Église. Et c'est assez logique, hein, si vous réfléchissez, le credo, je vais redire ma foi et donc je vais m'unir davantage à Dieu. Les intentions de l'Église, du Saint-Père, je vais être plus fils de l'Église, en portant le poids de l'Église et en traînant l'Église vers le haut. La messe, ou alors ce long temps de prière, eh bien, je vais m'ouvrir à la grâce que Dieu nous propose à chaque instant. Et avec ce désir de conversion par la confession. Donc il y a un travail de la grâce qui est très beau à travers toutes ces prières et qui fait que oui, Dieu nous obtient beaucoup à travers ça. Il nous offre. Oui. Alors quand est-ce que... Alors, donc je reprends la question. Quand est-ce qu'on sait qu'une âme défunte est entrée au ciel? Bon, on ne peut jamais savoir, sauf si cette âme vous apparaît et vous le dit, mais ce n'est pas arrivé. Par contre, parfois, après les obsèques, ou même avant les obsèques, on peut... quasiment entendre le défunt. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ou alors avoir l'impression de le voir dans la rue ou de le voir. Et puis vous entendez sa voix, vous retournez et puis vous vous dites « Ah ben non, c'est pas lui, je me suis trompé. » Et puis vous croyez le voir, vous regardez « Ah ben non, c'est pas lui. » Il me plaît de croire que ce sont des tout petits signes, des petites stimulations, si vous voulez, de la part de ces âmes qui nous aident à penser à elles et qui nous disent, qui mendient notre prière. Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît ? Donc, quand ça vous vient, eh bien, priez, faites célébrer des messes. La célébration de la messe, il n'y a rien de plus puissant pour elle. Priez. Et puis, le jour où vous ne l'avez plus, ben, vous pouvez toujours demander au Seigneur de le prendre auprès de lui, mais vous pouvez aussi prier de manière générale pour les âmes du purgatoire et notamment pour celles qui en ont le plus besoin. Et si, par hasard, cette personne que vous avez perdue est encore au purgatoire, ben vous demandez pour elle aussi. Mais Dieu, lui, fait ses comptes, il sait mieux que nous. En tout cas, il me semble que ces petits signes, il faut y faire attention. Je dis autre chose sur les revenants, sur les fantômes, sur ce qui peut se passer d'un peu bizarre parfois dans les maisons. C'est souvent une manifestation d'une âme qui a besoin de prière. Et donc, faites célébrer des messes. Je me souviens à Paris, une personne qui vient me voir et qui me dit: mon père, est-ce que vous pourriez venir bénir la maison? Parce que là, ça fait des années que ça dure. Donc je lui demande ce qui se passe. Et donc avec son mari et ses deux fils, ils ont aménagé dans un appartement et qui a très vite été très lourd. Il y avait des choses qui s'écrivaient au-dessus de leur lit. Toute seule. Les enfants entendaient des choses, je ne sais plus s'ils avaient vu quelque chose, mais ils entendaient et tout le monde avait peur, origine de la peur. Et ça n'allait pas bien dans leur famille aussi. Voilà. Et elle me dit, donc ça durait depuis des années, et elle me dit, il n'y a pas très longtemps, vous n'êtes pas obligé de croire, mais moi j'y crois. Ma mère est venue pour nous aider et elle a voulu faire la cuisine dans la cuisine et elle n'a pas réussi parce que le plan de travail se bombait. Donc elle n'arrivait pas à poser les plats sur le plan de travail. Vous imaginez ? Je comprends que vous n'y croyez pas, mais je sais que c'est possible. Eh bien, là je me suis dit, bon, d'accord. On va faire quelque chose. Donc j'ai demandé à un prêtre qu'est-ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit, demande à cette dame quelle est l'histoire de son appartement. Donc, je lui ai dit, cette femme a été enquêtée un petit peu et est revenue en me disant, eh bien, j'ai appris que dans les années 70, un homme s'est suicidé dans mon appartement. Bon. Et le prêtre m'a dit, bah, dans ce cas-là, maintenant, tu vas célébrer une messe en présence de cette femme, une messe pour le repos de cette personne qui s'est suicidée. Ce qu'on fait, et puis les jours passent, je voyais régulièrement cette personne, et puis moi je me dis, mais attends, il faut que tu lui poses des questions. Je lui demande, mais alors, comment est-ce que ça va ? Il me dit, ah non, mais tout est fini, tout est parti. Elle ne me l'avait pas dit parce que pour elle, c'était évident. On allait faire cette messe, ça allait libérer l'âme du purgatoire et tout s'arrêterait. Et pour moi, ce n'était pas si évident que ça. En tout cas, nous avons rendu grâce à Dieu pour cette âme libérée de son tourment. Donc, si vous entendez des gens qui vous parlent de choses comme ça un peu bizarres, dites-leur, va demander à un prêtre de célébrer des messes pour ces personnes. Fais une enquête et fais célébrer des messes pour elles. Voilà. On peut bénir les appartements, mais là, ce qu'il fallait faire vraiment en premier, c'était célébrer cette messe pour cette âme, c'est ça. Si on bénit, mais que l'âme a besoin de messe, ça ne changera rien. Voilà. elle se manifestera encore. Ah non, 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 le lieu de la célébration, on l'a célébré à l'église, et c'était pas dans le lieu, non. Et je me suis même pas déplacé, donc rien du tout. Non. Oui.
Du point de vue sémantique, on a beaucoup parlé de l'âme. Est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit et l'âme?
Non. Et ça, je peux pas répondre là maintenant, surtout que ça sonne. Oui, mais t'inquiète pas, si par hasard elles étaient en enfer, elles sont rien, et puis c'est tout. Mais Dieu met des limites.